Très chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons la série concernant que, en effet, il est absolument vrai qu'il existe les mauvais esprits et qu'ils sont vraiment, comme on le dit, mauvais. Le titre de cette série qui continue, je dis bien, on pourrait dire « Griffes de velours ». En effet, ces esprits infernaux ne nous attaquent pas toujours brutalement comme un tigre le ferait. Mais on peut bien dire, ce sont des griffes de velours, mais tout de même des griffes assez dangereuses. Donc, comme c'est beaucoup trop long, cette étude, nous la ferons en 4 parties. Ceci sera la première partie. Chers amis, je n'ai pas fait cette étude, ni les précédentes, comme un exercice de narcissisme morbide. Ceux d'entre vous connaissent des histoires de ce type et ils savent ce que je veux dire. Je n'ai donc pas non plus fait de cela, comment est-ce qu'il faut dire, j'ai pas fait cela afin de glorifier le noir, le sinistre, le sombre, ce qui veut dire le mal. Non, je n'ai pas du tout eu la pensée de faire cela pour glorifier tout ce qui représente le mal. Mais c'est pour avertir. Du reste, je réalise que les paroles que je vais partager avec vous semblent dures, peut-être même, Dieu m'en garde, trop moralisatrices. Aujourd'hui, vous savez, on n'ose bientôt plus rien dire qui soit moralisant, parce que c'est mal vu, n'est-ce pas? Très mal vu même, aujourd'hui. Ça devient difficile. Très difficile. Bref, si cela était le cas et que vous me trouvez trop moralisateur, si c'était le cas, je vous en demande sincèrement pardon. J'ajoute devant le Seigneur que je ne peux me livrer à l'apologie de ce qui suit dans les chapitres à venir, dans les thèmes que j'essaye de développer, car je crois réellement que je vous transmets la vérité. Et je prie avant que le Saint-Esprit m'inspire. Et donc, ce serait très involontairement qu'il y aurait quelque chose qui m'échappe. Nous sommes, et je le répète, tellement imparfait et limité, en tout cas moi. Ceux parmi vous qui sont ou ont été des participants à l'occultisme et cherchent un moyen de sortir de l'obscurité, ceux qui ont des amis ou des proches encore tenus dans ces liens, comprendront la signification de mon histoire. Dans les précédents CD de cette étude, je révèle quelques-uns de mes principes fondamentaux appris grâce à de nombreuses années d'études ardues et d'expériences personnelles au sujet du discernement des faux prophètes et faux guérisseurs et des moyens de libération et guérison. Je prie pour que ces études vous aident et vous encouragent. Ce monde souterrain n'est pas un passé affadi. Il est toujours actuel et continuera à croître et se répandre jusqu'à suffoquer les gens telle une vigne en fermentation, ceci se perpétuant dans le futur au jour du retour de Christ. La plupart d'entre nous ressentiraient un choc à l'énoncé de la liste de nos amis, collègues, co-paroissiens impliqués dans l'occultisme de toutes les manières possibles. Et c'est à cause d'une prévention d'incroyance ou de moquerie très fréquente, et beaucoup ont plongé ces activités souterraines dans le secret. Et cette étude, pour la plus grande part, est donc un bon exemple dans le domaine du spiritisme. Si vous pensez n'avoir jamais été confronté à cette chose, la raison en vient éventuellement d'une méconnaissance. Les pratiques spirites sont souvent déguisées d'apparences totalement innocentes, voire même en quelque sorte célébrées tel un passe-temps tout simplement. Je passe sur le nombre extraordinaire de personnes prisonnières du démon qui m'ont dit « Oh, vous savez, cher frère, je n'ai jamais fait de spiritisme. Oh non, non, je me suis juste amusé avec une planchette Ouija deux ou trois fois, ou avec l'astrologie. » La lecture dans une feuille de thé, un pendule, le donjon et dragon, des séances du psalmisme ou des tarots, juste pour un peu passer le temps. C'est merveilleux. Eh bien non, c'est affreux. C'est horrible. Alors ce qui revient à dire, oh, voyons. Je ne suis pas vraiment enceinte, mais non, puisqu'il reste encore plusieurs mois. L'effet n'en sera sans doute pas énorme sur le moment, mais peut-être ultérieurement, et ça vous pouvez en être sûr. On ne peut se permettre d'ignorer les événements alentour, et nous vivons aujourd'hui à une fin de temps de dispensation, et le triple avertissement donné par notre Seigneur résulte en une vengeance de faux prophètes et de faux messies en grand nombre. L'un balaye l'autre et l'esprit du démon opère des miracles comme jamais depuis que le Christ a marché sur notre planète. Notez Saint Matthieu chapitre 24, les versets 4, 11 et 24, ainsi que Saint Marc chapitre 13, versets 4 à 6, et notez encore les versets 21 et 22. Ce monde, est soigneusement aménagé pour la venue, oui, on peut bien dire pour la venue de celui que les Saintes Écritures nomment l'homme de bassesse, le fils de la destruction. Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Cela étant, celui à venir est en accord avec les activités de Satan, tous les pouvoirs et signes et faux miracles. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. C'est donc l'Antéchrist, le 666. Et je pense voir l'homme en question est déjà parmi nous. Il pourrait être déjà comme bébé parmi nous actuellement, et le diable œuvre incessamment pour préparer l'humanité à applaudir aux signes sataniques ainsi qu'aux miracles qu'il va accomplir. Apocalypse chapitre 13, verset 13. Telles des merveilles issues des mains de Dieu lui-même. On a du reste déjà vu tout cela. Des débats télévisés où les invités tombent les uns sur les autres en matière de démonstration psychique dernier cri. J'ai aussi vu une intervention extraordinaire, ou si vous voulez extraterrestre, chirurgicale, psychique, sur une femme bionique. Nous avons ri. Il y a, bien sûr, il y a, on peut dire, pendant plus d'une décennie, il y a donc des choses soi-disant ou paraissant charmantes. Il faut quand même le dire, ça paraît très charmant. Les enfants et les grandes personnes se sont régalés tous les tours qu'ils ont faits de cette fameuse Samantha, la bonne sorcière, dans ma sorcière bien-aimée, et à tous ces génies qui se trouvent dans une bouteille, les petites histoires racontées au sortir de l'école sont pleines de fantômes et de lutins. Une petite fille et un petit garçon y apprennent à devenir magiciens. Et les parents trouvent ça merveilleux. Ils en sont en adoration devant ces enfants futurs, trafiquant avec le diable. On raconte aux enfants nombre d'histoires, de Casper le fantôme à celle de bande dessinée à propos d'aventures dans l'espace carrément, et cela afin qu'ils acceptent les phénomènes naturels comme partie intégrante, mais qui sont tellement merveilleuses de leur vie quotidienne pour qu'elles soient heureuses et que cette vie pour enfants devienne intéressante et dépourvue de crainte. On vend des planchettes dans presque tous les magasins, même les magasins de jouets, souvent à côté de Donjons et Dragons, un jeu fondamentalement occulte. Quoi qu'en pensent ses adeptes, il n'y a guère de journaux dans ce pays où l'on ne trouve d'horoscope quotidien, et oui, quotidien. Des hebdomadaires, parmi une demi-douzaine d'autres publications dans tout le pays, sont envahis d'articles sur le psychisme, prédictions nouvelles, etc., etc. Le fil conducteur d'une nouvelle série télévisée nommée Phoenix est la mise en valeur d'un chaman ou messie extraterrestre dont dépend le salut du monde. Il détient d'impressionnants pouvoirs, des pouvoirs psychiques, dont le moindre n'est pas la lévitation, la psychokinèse et la divination des pensées. Ils ont même mis au point scientifiquement des physiciens, des appareils où ils pensent qu'ils pourront lire nos pensées, carrément, et dont dépendra toujours le salut universel. Des dizaines de groupes de musique plus ou moins ouvertement sataniste. Jetez un coup d'œil sur la couverture de l'album avec ses titres « Envahissent le marché » avec en toile de fond de leur chanson, pour certains, de quasi-prières qui sont adressées à leur maître le malin. Des gourous orientaux ont envahi le marché, vendent leur euphorie transcendantale, leur doctrine sur le karma, la lévitation et la réincarnation, bien taillée, bien expliquée, aux mesures du marché occidental. Tout cela a bien sûr été embrassé par des centaines et des milliers de personnes. Les cours de yoga abondent, des cours de divination, de la magie et parapsychologie sont offerts par maintes grandes institutions, sans mentionner les lycéens. Et on y trouve fréquemment des lectures sur le surnaturel, même en classe de 4e, 5e et 6e, sous l'excuse, évidemment, que cela est d'un très grand intérêt pour les élèves. Les titres de ces livres de grands intérêts sont notamment « Sorciers, fantômes et secrets des grands magiciens », « Lecture, avoir donc à faire si possible à voix haute », « Psalmodie, des chants et des potions magiques », des titres accompagnant des bandes de films de cette sorte sont également révélateurs, magie et sorcellerie qui explore le monde du fantastique et du surnaturel, des sorcières avec leur histoire populaire, les signes de l'astrologie, une description des signes du zodiaque, facile du reste à comprendre, et cette bande annonce des films captivants et montre la manière dont les astrologues essayent d'annoncer aux autres les événements à venir par l'étude des étoiles. La troisième bande de cette série se nomme « Prédire le futur ». Elle examine les pratiques de prédiction au moyen du psalmisme, ainsi que des boules de cristal et de tarot. Ensuite, le pouvoir de l'esprit, un regard fascinant sur ceux qui prétendent être dépositaires de pouvoirs extrasensoriels ou mentaux inaccoutumés. Précisons ceci, des éducateurs même, capables, qui peuvent probablement apprendre à des enfants comment faire du spectacle de ces séries des lectures passionnantes, manquant cependant d'élévation spirituelle et risque de causer de graves, très graves désordres dans la vie de milliers d'enfants. En effet, ils sont la cible première de la campagne de mensonges lancée par le malin. Leurs jeunes esprits sont plus aisément moulés, programmés dans un but d'acceptation des réalités surnaturelles. Depuis le milieu des années 60, nous avons été submergés d'informations et de phénomènes occultistes, domaines où seraient impliqués au moins, paraît-il, plus de 65 millions de personnes pratiquant le tarot, le Ouija, l'astrologie, la spiritualité ou le spiritualisme, allant jusqu'à des mesures sataniques, c'est-à-dire des choses qui se pratiquent comme si vous alliez à l'église à la messe du dimanche matin, sauf que ce sont des messes sataniques. C'est tout autre chose. Et mon histoire, à la lumière de leur pratique, ne paraît pas aussi désespérément bizarre que certains iraient à la pensée. Il y a plus de 30 millions de gens qui font aujourd'hui des messes noires. Et ces dernières années, à l'étude de la question, je m'effrayais du nombre de chrétiens même, inclus des pasteurs et des prêtres, totalement ignorants des activités satanistes et de leur impact à l'intérieur de l'Église. C'est donc pas faux quand on dit le loup qui vient dans la bergerie. Beaucoup, y compris des pasteurs, prêtres, sous le patronage de Bultmann, ne croient plus en un diable personnifié, ni à de vrais phénomènes issus de lui. Les récits sans phare, non scientifiques, de la Sainte Bible concernant le malin et les démons ne furent pas sans les gêner du tout. Mais ce fut aussi le cas des miracles de Christ et de sa déité, de sa conception sans péché, de son trépas sur la croix pour notre rédemption et de sa résurrection dans la chair, ainsi que de la doctrine de la Sainte Trinité. Je répète, ce fut aussi le cas en son temps, des miracles de Christ et de sa déité, de sa conception sans péché, de son trépas sur la croix pour notre rédemption et de sa résurrection dans la chair, ainsi que de la doctrine de la Sainte Trinité. Le fait que les Saintes Écritures rapportent que le Christ fut face à face, en confrontation directe de Satan, Jésus-Christ se trouvait soi-disant en proie, c'est ce que aujourd'hui il y en a qui prétendent qu'il a été en proie à des hallucinations atroces et en état de déficit vitaminique suite à 40 jours de jeûne, tel que l'exposait l'évêque James Pike. Des chairs même de notre nation surgissent ou surgirent, et là, les vérités qui sont issues de la puissance du Très-Haut et de sa sainte parole, arguments nus et sans phare, pleins de pathétique d'un messie caricatural, carrément. On passa ensuite à une sorte de piété, pourquoi pas, malgré qu'ils avaient nié sa grandeur. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Quel n'est donc pas alors notre étonnement de voir nos enfants adonnés aux drogues et au spiritisme uniquement pour pallier au vide de leur quotidien, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les amuser, soi-disant. Mais dans les traces de l'évêque Pike, une nouvelle tendance s'est fait jour parmi ces bergers, tout en prenant le concept du malin, de l'accepter et de toute sa clique. Ils suivent la route de la parapsychologie et les manifestations surnaturelles divines relatées dans les Saintes Écritures relèvent du domaine de recherche des plus grands médiums et psychistes, tous très attachés à la personne de Jésus-Christ, ce qui est très inquiétant. Les injonctions de l'Ancien Testament, prévenant pourtant contre la consultation des médiums. Notez le Lévitique chapitre 19, verset 31, renvoie aux juifs religieux, professionnels et prêtres et prophètes qui se confortèrent dans un rôle de seule habilité à révéler et à interpréter la sainte parole divine, entraînant chez eux une promptitude à dénoncer toute concurrence comparable à celle des mages. Considérons cet argument. Les injonctions bibliques citées ne nous sont que d'une faible aide aujourd'hui, notre vision du monde ayant tellement changé. Autrement dit, suivant l'évêque, les mots « parole de Dieu » en référant aux Saintes Écritures n'étaient rien d'autre qu'une figure de style selon lui. La Bible n'étant pas la révélation d'une absolue vérité donnée par le Dieu vivant, mais plutôt, selon l'évêque Pike, plutôt écrite de main de personnes qui se trouvent effrayées et peu sûres d'elles et cherchant désespérément à protéger leur travail et leur statut. Ayant rejeté le témoignage de l'Écriture sainte, il était un peu à la dérive, n'ayant avec lui que son expérience pour tout définir et modeler sa vision du monde. Quelle était donc la dernière révélation de l'expérimentation? Elle est venue au cours d'une des ultimes séances de l'évêque en compagnie du médium Ena Twigg, un esprit affirmant être Jim et parla à travers le mage et, en réponse à la question du prélat, « Avez-vous entendu parler de Jésus-Christ là où vous êtes ?» Et l'esprit a répondu « Oh, c'est délicat, j'aurais craint de vous blesser, je le ferai sans doute. » Il prit de lui-même, tel un mystique, un seigneur, oui, un seigneur. Oh, mais papa, il ne parle pas de lui en souvenir, mais comme d'un modèle, voyez-vous. Je voudrais vous dire, le Christ est triomphant, le saviez-vous? Mais ce n'est pas encore cela. Je ne le comprends pas encore. Parfois, pourtant, parfois, ça n'est pas clair à formuler. Pouvez-vous d'ailleurs un seul instant croire en un Dieu personnifié? Il est une force centrale, c'est tout, et vous passez tous par cette force-là. Es-tu d'accord avec moi, papa? Il approuva donc à l'évêque tout et il était d'accord avec l'évêque Pike, le mal, le démon. Et il dit même respectueusement à cet évêque, papa. Et ce faisant, il allait vers son éventuel anéantissement. D'autres mettent leur foi dans le diable, attribuant toutes les formes d'occultisme, non pas à des revenants influents sur des médiums ou encore à l'intervention de démons, mais plutôt à de la prestigitation, voire des aberrations psychomentales. Il est donc incontestable que pour une centaine de manifestations occultes, la plupart est frauduleuse. Les faux chiromanciens astrologue, psychiste, médium, spirite, certainement abondent, et leurs démonstrations peuvent en effet souvent être reproduites par de bons imitateurs. Ces magiciens habiles arguent que, puisqu'ils peuvent reproduire la plus grande partie du phénomène par prestidigitation, tout en analysant psychologiquement le reste, toutes ces sortes de phénomènes sont incontestablement frauduleux. On conclut donc, ces choses n'existent tout simplement pas, qu'il n'y a pas lieu de les craindre pour tout croyant. Donc, voyez-vous, donc, les croyants faisant partie de leur église ou de leur assemblée chrétienne, on leur fait croire que c'est pas dangereux du tout. Et en un certain sens, on est dans le juste si l'on adopte cette opinion. Nous ne devons craindre les fraudeurs en rien. Cependant, et malheureusement, bien que des esprits ou des spirites aient été reconnus comme faussaires, cela ne prouve pas que tous le sont. Une contre-preuve n'est pas suffisante pour infirmer le tout, car une seule exception peut mettre ou remettre tout en cause. De toute façon, que ce soit des vrais qui font toutes ces choses occultes et terribles, ou des imitateurs ou imitatrices, tout est dangereux et je ne conseille à personne d'essayer d'imiter ceux qui sont les pires. Affirmer que le démon ne produit nul miracle, que nul médium n'est le vecteur de manifestations surnaturelles ne doit pas nous entraîner à rejeter en bloc le Nouveau et l'Ancien Testament. Dieu de la Genèse à l'Apocalypse traite d'un être puissant, il est traité comme étant un être puissant, et il nomme, croyez-moi, Satan, et il ne cesse de nous avertir contre l'ennemi, contre son pouvoir malfaisant et séducteur. N'est-ce pas? Faisons bien attention. Les magiciens du Pharaon ont reproduit exactement les signes divins qui ont été délivrés par l'intermédiaire de Moïse, semblablement, et cela grâce à leur art mystérieux, changeant les bâtons carrément en serpents et les eaux de l'Égypte en sang, faisant envahir la terre de grenouilles. Ce ne sont que quelques tours de passe-passe relevant de la fraude pure et simple. N'essayez donc pas d'imiter, parce que vous serez tout aussi punis et dangereux que ceux qui pratiquent le vrai mal. Mais survint une circonstance où ils n'ont pas pu contrecarrer une plaie du Tout-Puissant couvrant la terre de vermine, bien que j'ai toujours pensé qu'une telle plaie venait du fin fond de l'enfer, et on peut dire donc bel et bien du diable. Leur impuissance les força à reconnaître là la main de Dieu. Exode, chapitre 8, verset 19. Au Deutéronome, chapitre 13, on est mis en garde contre un prophète ou marchand d'illusions venant du peuple qui vous donnera un signe ou produira une merveille, et ce signe ou ce miracle viendra à point concernant ce dont il vous parle. Et il ajoutera, recherchant d'autres dieux que vous ne connaissiez pas et servons-les. Vous ne devez pas écouter les dires de ce prophète marchand d'illusions, car le Seigneur notre Dieu vous met à l'épreuve. Deutéronome chapitre 13, verset 13. Ces termes, dont l'acceptation est signe et signifiant merveille, traduits par les scribes de l'Ancien Testament dans le Septuagésime, vers 250 avant Jésus-Christ, sont des mots identiques à ceux employés par le Christ en Saint Matthieu, chapitre 24, verset 24. Car de faux Christ et de faux prophètes surgiront, produisant de grands signes et des miracles. Ces mots-là sont précisément ceux utilisés pour décrire les miracles du Christ dans le cours des évangiles. L'Apocalypse, chapitre 16, verset 14, évoque les esprits des démons accomplissant des prodiges. L'Antéchrist, à l'heure de sa révélation, produira de très grands signes, faisant jaillir le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Apocalypse, chapitre 13, verset 13. Et c'est celui qui vient en accord avec les activités de Satan, investi de toute la puissance et de signes produisant de faux miracles. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. La signification du mot « faux » dans ce passage n'est pas frauduleuse dans le sens de nul vrai prodige accompli. Ces événements démoniaques ont bien vraiment lieu. C'est des réalités. La question qu'on doit toujours poser n'est pas uniquement « un authentique miracle survient-il ?» mais également « quelle en est sa source ?» Je répète, essayez toujours de comprendre quelle en est sa source. Et dans les Saintes Écritures, Dieu accomplit signes et prodiges afin d'authentifier les paroles de ses prophètes et de ses apôtres, témoignant de ce fait de la vérité évangélique en le Christ. Hébreux chapitre 2, verset 4. Le Messie prouva vraiment son identité du fait des miracles produits. Ces signes ne constituent cependant jamais une fin par ou en eux-mêmes. Ils n'étaient que des moyens pour approfondir de notre compréhension de la foi en un Dieu vivant. Ce que le Sauveur ne cessa jamais de rechercher en réponse pour la foi, c'était afin que vous soyez conscients que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Ainsi il disait au paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. » Saint Marc, chapitre 2, versets 10 et 11. Nous sommes donc témoins de nos jours et de maintes signes que nous apercevons autour de nous, des prodiges et des miracles, éventuellement absolument parfaits, soi-disant dans le nom de Jésus-Christ, et pour la plus grande gloire du Père des cieux. Mais quel Seigneur, je vous le demande, mais quel Seigneur et quel Père céleste? Voyez-vous, il faut faire attention, tout ça, ça semble parfait. Je répète, parce que ça semble tellement merveilleux, nous sommes témoins de nos jours de beaucoup de signes, de prodiges même, et de miracles. Éventuellement, ils ont l'air absolument parfaits, dans, ils sont même, et ça c'est difficile à croire pour un simple chrétien, ils sont même faits dans le nom de Jésus-Christ, et pour la plus grande gloire du Père des cieux. Et c'est là le hic, mais quel Seigneur et quel Père! Quand des milliers de gens pris d'une folie meurtrière à tout casser, à tuer même, tout cela au nom de Dieu, puisque Allah, pour eux, c'est Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que vraiment c'est à la gloire de Dieu? C'est à se le demander. Moi, je ne me le demande plus. Alors, faire référence au nom de Dieu ne garantit absolument pas la source, car il en est tant de nos jours qui se prémunissent du patronyme d'un Christ ne ressemblant aucunement à celui de la Sainte Bible. Ils induisent en nous un défaut de discernement dans le culte et d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Car si l'un vient annoncer un autre Christ non annoncé, ou si vous recevez un esprit différent dont vous n'aviez pas été informé, voire un évangile différent, et que vous n'avez pas accepté votre tolérance à cet égard, eh bien, sera catastrophique et non pas quelque chose de bénéfique pour vous, mais de dangereux. Notez 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Incidemment, l'apôtre Paul déclarait à une église comblée pourtant de dons, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7, et sincères, ils étaient sincères au Seigneur dans cette église, dans leur dévotion, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 à 8, que bien que ses dons et sa sincérité fût intacte, elle n'empêchait pas des déviations, c'est difficile à croire mais vrai, et des renoncements dus à un défaut de discernement et à une trop grande valeur accordée à l'expérience, uniquement à l'expérience et aux signes, à la place de nous centraliser, de nous concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Chers auditeurs, avant de terminer, disons que les pratiques occultes, elles ont souvent deux objectifs prioritaires. Le savoir surnaturel, habituellement à propos de l'avenir, et la puissance de toutes sortes de choses que les spiritistes cherchent à attirer par le moyen de manipulation des êtres et des forces surnaturelles. Genèse chapitre 3, verset 5. Les démons apparaissent parfois très accommodants, délivrant même gracieusement pouvoir et connaissance au culte, sachant que la demande et la recherche de choses au-delà des confins de la sainte parole divine violent directement le premier et le second commandement. Faut-il répéter? Voyez-vous, les pratiques occultes ont souvent deux objectifs prioritaires, le savoir surnaturel, habituellement à propos de l'avenir, et la puissance. Genèse 3, verset 5. Que les spiritistes cherchent à attirer par le moyen de manipulation des êtres et des forces surnaturelles. Alors les démons apparaissent beaucoup et surtout souvent très accommodants, délivrant gracieusement, il faut bien le dire, leur pouvoir et leur connaissance occulte, car ils savent que la demande et la recherche de ces choses-là, elle est grande, et pour vraiment pouvoir induire en erreur et posséder davantage de gens et les opprimer par les esprits du mal, voyez-vous? Et tout cela viole évidemment le premier et le second commandement. Voyez-vous, la Bible, elle dit: vous n'aurez nul autre Dieu que moi. N'oublions jamais cela. Vous ne vous fabriquerez pas d'idole à la ressemblance de ce qui est aux cieux, au-dessus ou sur la terre, en dessous, ou même dans les eaux. Vous ne leur rendrez aucun culte, ni ne les servirez. Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Recherchez de quelque manière que ce soit le savoir, elle, tout le savoir est évidemment, qu'est-ce qu'on veut en plus du savoir? On veut le pouvoir qui vient de sources surnaturelles. Au lieu de nous adresser au Père céleste, au Père des cieux, au Dieu, celui qui a fondé, qui a construit tout le monde et tout ce qui est autour, donc équivaut un peu à mettre d'autres dieux plus haut que lui. Ainsi, de vouloir échapper à sa protection attentive. Nous devrions uniquement nous adresser au Dieu de l'univers, et à son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qu'il a envoyé et qui a accepté ce sacrifice épouvantable, puisqu'il a dû mourir à la croix pour nous racheter, vous et moi. Il est dit dans Exode chapitre 20, je ne me rappelle pas du verset, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, combattant l'iniquité du Père et de ses enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Il est de notoriété publique parmi les spirites qu'il existe une pérennité de leur talent pendant trois ou quatre générations. Leur participation à ce que le Très-Haut dénomme leur abomination, selon Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14, accorde au diable, prince de ce monde, on a bien compris, le droit légal de les plier, eux et leurs descendants, pendant trois ou quatre générations. Et souvent, un arrière-petit-fils absolument non informé de ce que ont fait ses ancêtres devient spirite et tente de pratiquer lui-même tous ces artifices dangereux. Et il lui arrive alors parfois de voir l'enfer lui tomber, comme on dit, sur la tête, bien que n'ayant jamais fait d'occultisme. Il peut donc lui paraître ardu de croire en Jésus-Christ, on le comprend, quelle qu'en soit son envie, ou également de subir des attaques démoniaques. Donc, souvent, il n'a aucune chance de pouvoir être racheté par le Seigneur qui a pourtant offert la main tendue à tout un chacun qui veut bien l'accepter. Nous arrivons là à un point où nombre de chrétiens dans nos églises de nos jours tombent, hélas, dans l'erreur d'un intérêt excessif et malsain. Malsain, on l'a bien compris, envers Satan. Non seulement qu'ils se mettent à croire en lui, mais ils attribuent toute erreur humaine, toute chute, voire toute infortune, à l'intervention directe du démon. Ses frères et sœurs, incontestablement, aiment Dieu, je l'espère pour eux, et nous sommes tous donc en mesure de recevoir d'eux, par leur zèle et par leur application, par leur volonté de s'accrocher uniquement à Dieu le Père et de respecter tous ses commandements, et à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Cependant, et fréquemment, ce zèle n'est pas en harmonie avec le savoir issu d'une exégèse scripturaire. Bien entendu, déclarer tout le monde possédé et ayant besoin d'une délivrance est en contradiction flagrante avec l'enseignement des Saintes Écritures. Ça, c'est clair. Donc, chers amis, chers auditeurs et auditrices, nous terminons ici pour aujourd'hui et nous continuerons demain la deuxième partie où on commencera comment pouvons-nous exercer notre foi. Terminons donc pour aujourd'hui simplement par la prière. Prions. Qui délivrera nos lèvres pour te prier, Seigneur? Qui pénétrera nos cœurs d'une vive et sainte reconnaissance? Qui nous donnera le sentiment et le repentir des fautes que nous avons commises durant le jour qui finit? Qui nous fera tomber avec espérance et foi au pied du Sauveur de nos âmes? Qui fera naître en nous l'esprit de prière et de supplication? Ô notre Dieu, toi seul peux agir en tes faibles créatures. Toi seul peux les attirer à toi par ta grâce infinie. Nous le reconnaissons humblement, nous implorons ton secours et l'assistance de ton Saint-Esprit, qu'il prie lui-même en nous, qu'il vienne nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et qu'il nous soulage dans nos faiblesses, qu'il parle à nos âmes de pardon et de paix, qu'il nous assiste dans l'œuvre importante de l'examen de nous-mêmes. Seigneur, accorde-nous cette précieuse faveur. Accorde-nous aussi celle de pouvoir te prier pour nos semblables et en particulier pour les êtres que nous aimons, pour les membres de nos familles, pour nos amis. Donne à chacun une bénédiction qui réponde à ses besoins. Aux uns, la patience, aux autres, la persévérance, et à tous, la foi, qui est la seule source de toutes les vertus chrétiennes. La foi est le seul refuge pour l'âme. Seul fil invisible de communication avec toi, Seigneur Jésus-Christ. ce que nous te supplions d'accorder, non seulement à ceux qui nous sont chers, mais aussi à tous les hommes et femmes. Tous, nous te supplions de nous l'accorder à nous-mêmes, et nous te le demandons, Seigneur, au Saint-Nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et, chers auditeurs et auditrices, à demain, Dieu voulant, pour la suite. Comme je l'ai dit, cette étude est beaucoup trop longue et nous la ferons en 4 parties. À demain et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Au revoir.